Il y a tout un discours de la part de la résistance qui était de dire attention, il y a bien une épidémie, c'est juste qu'elle est moins forte que ce que disent les autorités. Ça, c'est faux. Il n'y a pas de trace d'épidémie d'aucune sorte. Quand une personne allait faire son test et qu'elle avait un test positif, dans la majorité des cas, elle était en parfaite santé. Elle avait zéro symptôme.
Ouais.
Ce qui veut dire qu'on a un test super qui dit on a le Covid quand on est en bonne santé. Et inversement, quand une personne avait des symptômes, dans l'écrasante majorité des cas, elle avait un test négatif.
Ah ouais.
Donc on avait un test qui marchait à l'envers, ce qui veut dire qu'il n'y a aucun lien entre le test et la maladie. Hein. C'est entièrement bidon. C'est-à-dire qu'on peut vérifier que statistiquement, les tests Covid sont 100% bidons. Arrêtez de croire que vous êtes malade sur la base d'un test à la con. Donc c'est vraiment une pandémie créée de toutes pièces sur la base de tests qui sont 100% bidons. Je prends souvent l'exemple du test de grossesse voilà, qui n'est pas parfait, mais qui permet de savoir une femme si on est enceinte, si elle fait pipi dessus. Ben voilà, vous prenez 9 millions de petits garçons de 9 ans européens, vous leur faites faire pipi sur un test de grossesse, vous aurez des tests positifs.
Ben, ouais.
Il n'y en aura pas beaucoup parce que c'est un test qui est assez fiable. Mais qu'est-ce que vous faites d'un petit garçon de 9 ans avec un test positif? Vous lui dites qu'il a déclenché une grossesse asymptomatique? Enfin,
Pierre Chaillot est statisticien et en 2023, il a sorti un livre chez L'Artilleur qui s'appelle COVID-19, ce que révèlent les chiffres officiels. On s'était parlé juste avant la sortie de son livre au Québec, soit en février 2023, et ma foi, force m'est d'admettre qu'il semble encore nécessaire de faire un bilan un an et demi plus tard pour parler de ce qui s'est réellement passé pendant les années de la crise COVID. Parce que oui, le narratif officiel continue de nous talonner qu'on a vraiment vécu une pandémie et qu'il y a eu hécatombe, et pourtant, ce n'est pas ce que disent les chiffres officiels. Bonjour Pierre Chaillot, merci d'être avec moi aujourd'hui.
Bonjour Héloïse, merci de m'inviter une deuxième fois après un an et demi de péripéties.
Oui, de péripéties, exactement. C'est pas comme si on avait vraiment réussi à mettre de l'ordre dans tout ce qui se passe avec le COVID. Et toi, Pierre, tu es statisticien et tu as écrit un livre. Quand on s'est parlé, il n'était pas encore lancé au Québec. Nous, il est arrivé en mars, je pense que ce n'était pas la même date. On s'est parlé en février 2023 et ça s'appelle COVID-19, ce que révèlent les chiffres officiels chez L'Artilleur. Et... ben, en fait, ce qui m'hallucine, c'est qu'on doit avoir encore une discussion en 2024, fin août 2024, parce que on dirait que ça fuite pas dans la sphère publique. Les chiffres sont là, les données sont là, les études sortent de plus en plus. On a de plus en plus de données. C'est pour ça que j'ai pensé que ce serait intéressant de faire un point aujourd'hui, parce que j'ai l'impression qu'on a encore plus d'informations qui corroborent ce que tu avançais. Et malheureusement, ben ça change pas l'opinion publique. Qu'il n'y a pas vraiment eu de pandémie, qu'il y a eu quelque chose de, on pourrait appeler une fraude, je ne sais pas si on a le droit d'aller jusque-là. Est-ce qu'il y a eu pandémie, Pierre?
Non, il n'y a pas eu pandémie du tout, à aucun moment. Pour qu'il y ait une pandémie, il faudrait que déjà, on prouve qu'il y ait des épidémies, puis des épidémies de manière pense, c'est-à-dire partout dans le monde, et il n'y a pas eu ça du tout. Il n'y a pas de phénomène épidémique, il y a... quelques endroits, à certaines périodes où depuis 4 ans, il y a des décès, un peu en trop. Et ce que je montre dans le livre, c'est que les endroits et les moments où il y a des décès en trop, ce sont des moments où les gouvernements prennent des mesures absolument délétères, d'abandon de la population, d'abandon du soin classique, voire même de décisions extrêmes, comme le fait d'aider à mourir des personnes qui sont malades sur le principe qu'elles seraient insoignables, voire même contagieuses pour les autres. Et qu'il n'y a qu'à ces moments-là qu'on voit des décès. Et on en voit aussi pendant les campagnes de vaccination. Voilà. Donc, il n'y a aucun moment ni aucun endroit où on trouve des décès en surnombre dans des pays et des moments où on laisse les gens tranquilles et où on laisse le flux habituel des soins, de la vie normale se dérouler. Donc, il n'y a que des décès qu'au moment et qu'après avoir pris des décisions. Hein. C'est en principe de causalité, c'est ça qui est important. Il n'y a pas de décès avant de prendre des décisions délétères. Les décès arrivent après les décisions à chaque fois. D'ailleurs, ça veut dire qu'au moment où les décideurs prennent des décisions, ils n'ont aucune stat, aucune remontée de quoi que ce soit qui pourrait leur dire qu'il se passe quelque chose. Parce qu'il y a toujours un décalage entre le fait, l'information et le comptage statistique. Voilà. Donc, toutes les décisions sont prises avant que quiconque puisse dire qu'il se passe quelque chose. Et a posteriori, on remarque qu'il y a eu des augmentations de décès après. Donc non, il n'y a aucune épidémie, c'est pas vrai.
OK, donc ça, on ne peut pas dire, je ne sais pas en France, mais on ne peut pas dire qu'ici, c'est ça le discours officiel. Est-ce que ça change un peu en France?
Non.
Non,
oui. Ici, ça, en fait, ça, Ça, on va dire que ça évolue doucement dans la population. Il y a quand même tout un tas de gens qui se rendent compte, à minima, que c'était beaucoup moins fort qu'annoncé. On va dire que ça, on va dire que c'est admis. C'est-à-dire que les mesures extrêmes qui ont été prises ne peuvent pas porter de justification par la gravité de la situation réelle. Ça, je pense que maintenant, c'est admis par beaucoup de monde, c'est admis par les gouvernements, par les responsables. Donc là-dessus, on peut facilement avancer. Après, voilà, aller encore plus loin pour dire non, mais il s'est vraiment rien passé du tout, ça, c'est difficile. C'est difficile aussi parce que il y a la quasi-totalité de la population qui a allègrement participé à ce qui s'est passé. Et donc, pour beaucoup, la remise en question, je pense, est un peu trop forte.
Oui, ben en fait, c'est ça ma peur, c'est qu'on ne soit pas capable d'aller à cette remise en question-là, justement parce qu'il y a tellement de gens qui ont embarqué dans ce délire collectif-là. Et je pense que la majorité ne le faisait pas pour mal faire. Vraiment, j'ai la certitude de ça. Mais c'est comme si une fois que le train était en marche, ben, tous les wagons avançaient, puis finalement, c'est pas forcément orchestré, c'était pas forcément réfléchi que chacun jouait son petit rôle, mais les gens se sont dit, mon Dieu, il y a quelque chose de vraiment grave et donc on doit s'en remettre aux autorités sanitaires, déjà ce mot qu'on n'avait jamais entendu avant, et on doit arrêter de réfléchir et ne pas trop nommer les incohérences. Ils doivent savoir ce qu'ils font. Et finalement, avant je pense qu'on devrait reprendre à la base, j'aimerais comprendre comment, c'est quoi ça, être un statisticien? On s'imagine un peu ce que c'est, mais comment t'en es venu à prendre les données puis vraiment tirer des conclusions qui sont différentes des chiffres, ben, des conclusions officielles qui sont tirées?
Statisticien, moi, c'est ma formation et mon métier, hein. Donc, j'ai fait une école d'ingénieur de statistique en France. Voilà. Et puis, j'ai intégré l'Institut national des statistiques français. Donc, moi, c'est mon métier d'étudier les chiffres, de les analyser, de comprendre ce qu'il y a derrière, surtout de comprendre la manière dont ils sont construits et ensuite d'en présenter les résultats. Ça a même été officiellement mon métier pendant un paquet d'années et j'ai tout un tas d'études où mon nom, où je signe directement les papiers qui sortent. Et si vous tapez mon nom sur Internet, alors certes, vous allez trouver des résultats Google disant que je suis un méchant complotiste,
C'est
mais
sûr.
de manière très officielle, vous avez tout un tas de papiers qui ont été relus par mes pairs et que j'ai diffusés. Donc non, c'est mon métier. Et donc quand cette histoire est arrivée, j'ai fait ce que je faisais dans mon métier habituellement, c'est-à-dire que j'ai récupéré les données à ma disposition et j'ai regardé s'il se passait quelque chose. Et j'ai remarqué tout un tas d'incohérences entre les résultats statistiques et le discours prononcé, et puis tout un tas d'incohérences entre les résultats statistiques et ce que prétendaient des médecins, des épidémiologistes sur la manière dont fonctionnaient les épidémies ou celles-ci en particulier. Et du gouvernement comme de la résistance, hein, c'est-à-dire que ça n'allait pas du tout avec les chiffres, et j'ai mis longtemps à creuser. Pour comprendre que tout ce que je croyais vrai et démontré en termes épidémiologiques sur les maladies, les moyens, on va dire que ça se répand dans la population, en fait, tout est faux. Il n'y a rien qui se vérifie en termes statistiques, et ça prend longtemps. Quand on est persuadé de savoir quelque chose, et que c'est un savoir académique qu'on a appris à l'école, c'est très dur de se remettre en question et de se rendre compte que si les conclusions sont fausses, c'est parce que nos hypothèses de départ sont fausses. Et on a tendance au début à essayer de trouver des excuses, à dire oui, mais on sait que ça marche comme ça, pourquoi je ne trouve pas les résultats? Et ça m'a pris longtemps avant de comprendre que non, il fallait tout remettre à plat, il fallait partir des résultats qu'on avait, qui sont des résultats statistiques, ceux dont on sait qu'ils sont construits de manière, on va dire, fiable, et dont on connaît la manière dont les chiffres sont récupérés et diffusés. Et voilà, il faut se servir de ça comme socle pour comprendre ce qui se passe. Et puis, si la théorie initiale de ce qu'on croit savoir n'est pas vérifiée dans les chiffres, ça veut dire que la théorie est fausse. Point. C'est la manière dont on fonctionne en science. En science, on est en permanence en train d'essayer de regarder si la théorie qu'on a est juste, avec des résultats d'expérience, des résultats expérimentaux, des observations. Et si les expériences, les observations sont pas en accord avec la théorie, et ben, à un moment, il faut réfuter la théorie. Et voilà. Et donc, mais ça met longtemps à arriver.
Mais quand tu dis même des épidémiologistes avançaient des choses qui étaient fausses, comme quoi, par exemple, est-ce qu'on a un exemple?
Eh bien, par exemple, il y a tout un discours de la part de la résistance qui était de dire, attention, il y a bien une épidémie, c'est juste qu'elle est moins forte que ce que disent les autorités. Ça, c'est faux. Il n'y a pas de traces d'épidémie d'aucune sorte.
Prends quelques secondes de votre temps pour vous annoncer ma grande nouvelle. Ça fait longtemps que je veux faire une conférence et ça va enfin avoir lieu. Ce sera le 13 octobre 2024 à Montréal et ça va s'appeler Décoder la matrice et s'en libérer. Vous pouvez acheter vos billets sur mon site web dans la section boutique sur le helloveutsavoir.com. Tous les détails sont là. N'oubliez pas qu'il y a aussi une portion virtuelle, donc vous pouvez acheter vos billets en présence ou en virtuel si vous êtes trop loin. Mais je vais vous dire que si vous venez en personne, il va y avoir aussi une section cocktail après un catharsis où on va pouvoir parler et rencontrer d'autres personnes qui partagent des valeurs communes. J'ai hâte de vous rencontrer. Rendez-vous tout de suite sur le helloveutsavoir.com pour rejoindre mon infolettre et ne plus rien manquer du contenu que je mets en ligne. Vous pouvez aussi rejoindre ma communauté VIP pour avoir accès à des contenus exclusifs. Vous pouvez rejoindre avec un abonnement mensuel ou annuel. Et bien sûr, vous pouvez me suivre sur toutes mes autres plateformes si ce n'est pas déjà fait, comme YouTube, Facebook, Instagram et bien sûr X. À ce point, c'est à ce point-là qu'il n'y a rien.
Oui, c'est-à-dire, comme je le dis, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de mort ou que les malades, ça n'existe pas. Hein. Les malades, ouais. Ça existe. Les morts, ça existe aussi. Mais le principe d'une épidémie qui est qu'il y aurait des personnes malades qui ensuite transmettraient leur maladie à d'autres et les rendent malades, ça, ce n'est pas vrai, ça ne s'est pas passé. Ça ne s'est pas passé parce qu'on n'a aucune trace statistique que ce soit passé. Et encore une fois, quand il y a des décès, ce n'est pas du tout qu'il y a de la transmission ou et un espèce d'une maladie qui se déplace, on va dire, géographiquement. Quoi. Et on ne voit pas ça du tout. Il y a des gens qui, on voit des pics de décès exactement au moment où les gouvernements prennent des décisions. On sait très bien expliquer pourquoi. C'est qu'au moment où on abandonne les gens, c'est-à-dire bah, tous les jours, il y a des gens qui tombent malades, qui font des infarctus, qui font des AVC. Ça existe tous les jours. Et juste si à un moment donné, on décide bah, d'arrêter d'essayer de sauver tous ces gens-là et qu'on ne fait plus rien, bah, ces gens-là, ils meurent. Alors qu'avant, il y en avait qui réchappaient, point barre. C'est tout. Et donc, ce qui est complètement, ce que moi je croyais au départ, c'est-à-dire qu'on avait démontré de manière ferme qu'il y avait bien une maladie qui se propageait d'humain à humain.
Ouais.
Et donc, j'ai pendant longtemps essayé de construire des modèles statistiques qui permettaient de modéliser la propagation épidémique. C'est comment est-ce que les gens se rendaient malades les uns les autres. Ça, c'est complètement faux. Il n'y a rien qui marche. Il n'y a pas la moindre trace que ça se passe comme ça. Et donc, la seule conclusion qui s'offre à nous, c'est que cette théorie est fausse. Est fausse. Et que quand on voit des gens qui tombent malades de manière statistique, c'est pas du tout à cause de quelqu'un qui les aurait rendus malades, c'est parce qu'il y a quelque chose, un phénomène environnemental, un empoisonnement, une toxine, un stress, quelque chose qui les rend malades.
Et que tout okay, ce mais c'est important ce que tu dis, parce que dans le fond, c'est comme si, je vais être certaine de bien comprendre, tu tombes dans la théorie, finalement, la contagion virale, ça n'existe pas.
Il n'y a pas de trace statistique que ça existe. Je n'ai pas le droit de dire que ça n'existe pas.
Non, non, je
peut-être
comprends.
Peut-être que ça existe, mais si ça existe, ça ne laisse aucune trace statistique. Et donc, c'est un non-phénomène. C'est-à-dire que peut-être que ça existe, mais c'est complètement marginal par rapport à ce qui réellement rend malade les gens. Voilà. Wow. Donc, en science, on n'a pas le droit de dire que quelque chose n'existe pas. Okay. Je n'ai pas le droit de dire que la contamination virale n'existe pas. En revanche, j'ai le droit de dire que si elle existe, elle ne laisse rigoureusement aucune trace statistique, c'est-à-dire que ce n'est pas de ça dont on doit avoir peur quand on tombe malade. Voilà, les raisons pour lesquelles on tombe malade, qui se voient statistiquement, ce sont en effet des toxines, des stress, des empoisonnements. On voit bien que l'hiver, quand le froid arrive, exactement au moment où le froid arrive, on a des personnes âgées qui vont tomber malades et qui vont décéder. Ce qu'on appelle grippe, angine, bronchite, ce que vous voulez, qui arrivent tous ensemble à ce moment-là, il n'y a aucun phénomène de contamination, de propagation à ce moment-là. Hein. C'est tout le monde en même temps. Et donc ce sont des causes environnementales. Ce n'est pas possible que tout le monde se contamine exactement en même temps, la vitesse de la lumière, et qu'en plus qu'il y aurait un mystérieux virus qui apparaîtrait d'on ne sait où exactement au même moment. Ça ne va pas du tout, cette histoire.
Voilà. Donc, si on tombe malade, ce que je t'ai entendu expliquer, c'est que tout soudainement, la grippe a arrêté d'exister, la bronchite a arrêté d'exister, et là, tout est devenu COVID.
Oui, bien sûr. Ça, c'est ce qu'on appelle le principe de la codification. C'est-à-dire que lorsque des gens tombent malades, eh bien, on leur attribue un nom de maladie. Et classiquement, l'hiver, à partir de la fin de l'automne, début de l'hiver, quand on a des personnes qui font de la fièvre et commencent à tousser, etc., ça s'appelle syndrome grippal. Mais avec la folie Covid-19, eh bien, les mêmes malades qu'on a tous les ans d'habitude à cette époque-là, on a cessé de les appeler grippe ou syndrome grippeau, on les a tous appelés Covid-19.
Ouais.
C'est juste une dénomination, il n'y a pas de science derrière ça. Hein. c'est de la dénomination, c'est de l'administration, hein, c'est de l'administratif, cette dénomination. Et ça n'a rien à voir avec quelque chose de scientifique qui serait clairement établi. Pour dire ça, donc déjà, une première époque, là où le prétendu Covid a remplacé la grippe, il n'y avait même pas ce qu'on appelle les tests. Tout ça, ça s'est fait, on va dire, avec des médecins qui décidaient de donner un nom ou pas de nom. Mais dans une deuxième phase, il y a eu ce qu'on a appelé les tests, où on s'est mis à tester absolument tout le monde.
On parle des tests PCR, là, c'est bien ça?
Oui, c'est ça. Donc une fois que les tests sont arrivés, bon, on a eu plusieurs types de tests PCR antigéniques. En fait, on s'est mis à donner la définition de Covid-19 à toute personne qui avait un test positif.
Oui.
C'est-à-dire qu'il n'y a pas de lien entre le fait d'être malade et le fait d'être déclaré Covid-19. Il fallait juste un test positif. Et là, en France, on a des résultats assez rigolos, hein, parce qu'on peut aller sur le site au français officiel du ministère de la Santé, qui nous donne, hein, tous les résultats des tests en fonction des dates et du fait de savoir si les gens sont malades ou pas. Et là, on se marre, parce qu'on découvre que quand une personne allait faire son test et qu'elle avait un test positif, dans la majorité des cas, elle était en parfaite santé. Elle avait zéro symptôme.
Ouais.
Ce qui veut dire qu'on a un test super qui dit on a le Covid quand on est en bonne santé. Et inversement, quand une personne avait des symptômes, dans l'écrasante majorité des cas, elle avait un test négatif.
Ah ouais.
Donc on avait un test qui marchait à l'envers, ce qui veut dire qu'il n'y a aucun lien entre le test et la maladie, hein. C'est entièrement bidon. C'est-à-dire que on peut vérifier que statistiquement, les tests Covid sont 100% bidons. Il n'y a pas de
Ben,
lien.
en fait, c'est qu'on a créé une pandémie de gens en santé. Parce que les tests étaient positifs autour de nous, c'était l'été, personne n'était malade et là, ils nous disaient qu'on était dans je ne sais plus quelle vague, là. C'est comme si on a créé plein de nouveaux concepts qui n'existaient pas avant. Les vagues, je ne me souvenais pas que ça avait existé avant non plus, d'ailleurs.
Oui, parce que le nouveau concept, surtout, c'est le malade asymptomatique. Hein.
Vraiment.
C'est-à-dire que vous êtes en parfaite santé sur la base d'un test à la con, on vous
Ouais.
déclare malade et contagieux. Hein. En
Oui.
plus, c'est-à-dire qu'on déclare que si vous n'avez pas de symptômes, vous allez pouvoir transmettre votre non-maladie aux autres. Hein. On en est
Ouais.
là. Hein. Et ça,
Ouais.
ça a marché. C'est-à-dire que les gens ont vraiment cru qu'ils étaient atteints d'une maladie mortelle sans symptômes et qu'en plus, ils allaient transmettre leur maladie mortelle sans symptômes aux autres. Et ça, c'est la magie du test. Et alors ça, c'est vraiment compliqué en termes de narratif, même du côté des résistants, de faire comprendre aux résistants que c'est bidon et qu'il n'y a rien, que ces tests-là sont 100% bidons. Et on a beaucoup de résistants qui sont dans la fable du « oui, mais moi j'ai vu le Covid très grave, pas de
Ben.
symptômes, mais grâce à la potion magique du docteur machin, qui lui est un vrai résistant, un vrai médecin, du coup, j'ai guéri. » Mais non, arrêtez de croire que vous êtes malade sur la base d'un test à la con. Je prends souvent l'exemple du test de grossesse, voilà, qui est pas parfait, mais qui permet de savoir une femme si on est enceinte, si elle fait pipi dessus. Ben voilà, vous prenez 9 millions de petits garçons de 9 ans européens, vous leur faites faire pipi sur un test de grossesse, vous aurez des tests positifs. Ben,
Ouais.
il n'y en aura pas beaucoup parce que c'est un test qui est assez fiable. Mais qu'est-ce que vous faites d'un petit garçon de 9 ans avec un test positif? Vous lui dites qu'il a déclenché une grossesse asymptomatique? Enfin, ça... Oui, mais du coup, on en est là.
Ouais.
D'après ce que nous montrent les statistiques, encore une fois, c'est leur puissance. On regarde les résultats finaux et se rend compte qu'il n'y a aucun rapport entre ces fameux tests et une maladie. Donc c'est vraiment une pandémie créée de toutes pièces sur la base de tests qui sont 100% bidons. Le problème de faire admettre ça aux médecins, même de la résistance, c'est que c'est le cas pour quasiment tous les tests. Hein. C'est-à-dire que beaucoup de médecins, même de la résistance, se basent sur des tests pour soigner les gens,
Ouais.
mais sans avoir aucune notion de ce qu'est la spécificité et la sensibilité d'un test. Donc sans avoir aucune notion qu'un test, c'est pas la vérité et ça a une certaine fiabilité. Et donc ils se basent là-dessus. Ce qui fait qu'on est en période d'inversion totale, on va dire, de réalité. Où auparavant, un malade, c'était quelqu'un qui avait des symptômes et qui n'était pas bien, et on échange de réalité en disant qu'un malade, c'est quelqu'un qui a un test positif, ce qui est vraiment une négation totale de la réalité, quoi. Si vous êtes en parfaite
Ouais.
santé, vous êtes en parfaite santé. Puis si vous êtes
Ouais.
malade, vous êtes malade. Et le test peut être qu'un révélateur qui marche plus ou moins bien de quelque chose. Et pour le Covid, on sait que c'est bidon, hein, c'est 100% bidon.
Mais en fait, je vais juste clarifier parce que j'ai eu le COVID vraiment fort. Mes enfants l'ont eu. Bon, on a fait les tests antigéniques. Mais
Vous avez été malade. Ça,
oui,
c'est
c'est ça. Mais en fait, tu vois, ce que j'allais dire, c'est
vous
que
n'avez plus la COVID.
on a testé cet hiver. Bon, on a testé positif, mais tu vois, j'étais extrêmement malade cet été. Puis là, personne ne m'a testé. Ça n'existe plus vraiment le concept de tester. J'ai eu aucun dépistage. J'ai dû me rendre à l'hôpital. Il n'y a aucun docteur qui a eu un intérêt à comprendre qu'est-ce que j'avais. Mais quand j'en parle avec des gens autour de moi, il y a beaucoup de gens qui me disent « t'as dû avoir le COVID parce que bon, c'était vraiment incroyable, j'ai cru que j'allais mourir, j'ai jamais été malade comme ça toute ma vie, j'ai dû arrêter pendant 2 mois de travailler. Mais en fait, je me questionne parce que là, je suis sûre qu'il y a des gens qui écoutent en ce moment qui se disent « est-ce que tu es en train de nier ceux qui ont été malades? »
Je vais le répéter, si tu as été malade, tu sais que tu as été malade. Le fait d'appeler ça COVID, ce n'est pas scientifique et ça n'a aucun rapport avec la réalité.
Ouais, voilà. Okay.
La réalité, c'est d'être malade, d'avoir des symptômes et ça arrive à tout le monde. Je ne vais pas dire tout le temps, mais voilà, tous les humains tombent malades plusieurs fois dans leur vie à différents moments. Il y a des époques de l'année où on voit que les gens tombent plus malades qu'à d'autres et notamment ouais. L'hiver. Notamment quand arrive l'hiver et on voit quand le printemps arrive, ça va mieux. Il y a plus, notamment les personnes âgées ont du mal avec l'hiver. Et tombent plus facilement malades et décèdent plus. Mais à d'autres périodes dans l'année où on est malade de différentes manières. Et depuis cette histoire de Covid, c'est pas vrai de dire qu'il y a eu plus de malades, c'est faux. On n'en compte pas plus qu'avant. Ça, c'est la première chose. C'est pas vrai de dire qu'il y a eu des symptômes spécifiques par rapport à avant. Les symptômes que les gens ont eu et ont appelé Covid, que ce soit des grosses fatigues, des gros maux de tête, perte de goût et de l'odorat, ça arrive tous les ans à tout un tas de gens. C'est juste que quand c'est arrivé à ces personnes-là depuis 2020, on a dit, bah, du coup, ça, c'est spécifique au Covid. Mais il n'y a aucune spécificité oui. là-dedans. Ce sont des symptômes classiques du fait d'être malade qui arrivent de tout temps et que c'est juste maintenant, on les appelle Covid. Voilà, donc c'est... Il n'y a pas de définition scientifique du Covid. C'est ce qui fait sa force. On peut mettre tout dedans. Même des gens qui ont eu des grosses diarrhées pendant cette période, on a dit, attention, c'est un Covid intestinal.
Enfin, oui, il y a voilà. eu les vomissements. La gastro a fini par faire partie de... C'est un fourre-tout, en fait.
Et bien, tous ces mots qu'on utilise de base, même le mot gastro, c'est un fourre-tout. C'est le fait d'avoir des douleurs intestinales, une diarrhée. Voilà, on dit bah, j'ai eu des vomissements, on dit bah, j'ai eu la gastro. Mais ça n'a pas de sens, tout ça. C'est juste des mots qu'on met par-dessus. La seule chose réelle, ce sont les symptômes. Voilà, dire j'ai eu des vomissements, ça, c'est un symptôme. Ça, on est sûr qu'on a vomi.
On est dans la réalité.
Ouais, c'est la réalité. Les noms qu'on met par-dessus, qui sont des noms de maladies, c'est bidon. On fait des tests pour dire bah, tiens, j'ai trouvé telle bactérie, donc c'est telle bactérie la cause. Pourquoi pas? Puis si j'ai rien trouvé, c'est donc que c'était un virus. Voilà, c'est comme ça que la. Mais ce qui, à notre, il faut que les gens se rendent compte qu'à notre époque, les médecins et les hôpitaux sont obligés de faire ça, puisqu'on leur demande des comptes et de mettre des gens dans des cases, et les cases demandées sont des noms de maladies. Et c'est l'OMS qui détient et met à jour le codex qui s'appelle la codification internationale des maladies. On est rendu à la CIM 11. Et donc, tous les praticiens, hein, dans les hôpitaux ou les médecins, se réfèrent à ce codex pour mettre des noms de maladies. Alors que ces noms n'ont aucun sens clinique. Hein. Encore une fois, la clinique, ce sont les symptômes, c'est juste ça qu'on peut décrire. Et quasiment tout le monde, il y en a un nombre très réduit en fait. Hein. Et donc, ce qu'on appelle un tableau clinique, c'est une liste de symptômes. Et puis là-dedans, on va piocher pour dire c'est telle maladie. Mais pourquoi est-ce que l'OMS veut ça ? Puisque ça fait rentrer les gens dans la fable de « Ah ben si je te mets tel nom de maladie, eh ben, en face, je vais pouvoir dire c'est tel traitement. » C'est ce qu'on appelle du commerce. C'est-à-dire que voilà, on fait croire aux gens qu'on a identifié une cause certaine avec un nom de maladie et avec des trucs comme le Vidal, on va dire bah, « Telle maladie, c'est tel médicament et donc je donne tel médicament miracle pour soigner telle maladie. » Tout ça, ça n'a aucun rapport avec la réalité. Hein. C'est une construction pure de l'esprit. C'est-à-dire, voilà, vouloir mettre des gens dans des cases sur la base de, alors que tous les gens sont différents et sur la base de symptômes qui sont absolument pas spécifiques de quoi que ce soit, on décide et puis derrière, ça permet de donner telle ou telle potion magique pour aller mieux. Mais ça, je vais redire, hein, ça, ce système-là, il ne permet qu'une seule chose, c'est de faire passer la médecine dans un mode industriel et puis de faire du commerce.
Est-ce que tu irais jusqu'à dire que les traitements, parce que tu parles de remède miracle, de pilule miracle, est-ce que tu irais jusqu'à dire que c'est pas forcément même prouvé statistiquement que les remèdes fonctionnent?
Ah ben, moi, j'ai étudié surtout la partie vaccination, hein, ouais. où Il y a Christine Coton qui a écrit un livre qui s'appelle Tous vaccinés, tous protégés, où elle détaille,
Je l'ai reçu ici.
voilà, on va dire, enfin, uniquement l'étude clinique de Pfizer. Moi, même avant de connaître Christine, en tant que statisticien, je l'avais lu, j'étais tombé de ma chaise, pardon, tellement ça n'a aucun sens. Pfizer
Comment ça?
n'a jamais rien prouvé que son vaccin servait à quoi que ce soit. Le vaccin.
Est-ce qu'on parle bien des Pfizer Documents ou on parle un autre
Oui,
truc quand
enfin, le document officiel Pfizer qui a été fourni à l'agence du médicament, pas ceux qui sont sur l'INN noir, hein, le
même? Non,
document officiel qui est étudié par les FDA et l'EMA, qui a servi à valider le vaccin. Enfin,
OK.
quelqu'un qui a bac plus 1 en statistique, il est effaré de voir une méthodologie pareille. Ça n'a aucun sens. Assez peu de gens d'ailleurs savent ce qu'a promis Pfizer aux vaccinés. D'ailleurs, Moderna, c'est pareil. Ni Pfizer ni Moderna n'ont jamais promis aux personnes vaccinées qu'elles seraient moins malades après le vaccin.
Qu'est-ce qu'ils ont promis concrètement?
Elles ont promis qu'elles auraient moins de tests positifs.
Ok, wow, merci.
Voilà, donc si vous êtes malade comme un chien après le vaccin de Pfizer, mais que vous avez un test négatif, bah, du coup, c'est une réussite du
Tout
vaccin.
baigne, ok.
Mais encore mieux, si vous êtes reçu le vaccin Pfizer, que vous êtes malade comme un chien, mais que vous n'êtes pas testé, c'est une réussite. Parce que si
Wow.
on ne teste pas, bah, vous n'avez pas de test positif.
Donc, c'était ça l'objectif?
Et ben, le passe vaccinal permettait de faire croire que le vaccin Pfizer et Moderna et tout cela marchait, et puisqu'on testait que les non-vaccinés. C'est pour
Oui.
ça qu'il y a eu des statistiques favorables au vaccin pendant à peu près 2 ans, tant qu'il y avait le passe vaccinal qui fonctionnait, c'est tout. La seule raison pour laquelle les autorités faisaient croire à une efficacité vaccinale, c'était grâce au passe vaccinal. Le jour exact où le passe vaccinal est tombé, l'efficacité promue par les gouvernements, elle est tombée avec, puisque les vaccinés se testaient plus.
Donc, c'est aussi simple que ça, en fait. C'est qu'on a testé pendant pratiquement bon, toute la durée du passe vaccinal, on a testé que les non-vaccinés, les méchants non-vaccinés. On avait une pandémie de non-vax.
Oui,
Et
alors pas que,
finalement.
mais en majorité. Pas que, mais en écrasante majorité. Il y avait quand même tout un tas de vaccinés qui allaient se faire tester, hein, parce qu'ils pensaient que le vaccin était efficace, mais il fallait quand même se faire tester pour savoir s'il n'y avait pas le Covid. Enfin,
Ça devenait
mais...
compliqué de suivre les directives tant que c'était contradictoire et incohérent, mais il y en a qui ont réussi quand même à les suivre à la lettre.
Oui, mais c'est-à-dire que les vaccinés, voilà, ils avaient quand même la trouille et ils se testaient quand même,
Oui.
hein, pour un certain nombre d'entre eux. Ceux
Oui.
qui ne se testaient pas, c'est surtout ceux qui se sont fait vacciner pour voyager, qu'on n'avait rien à cirer, tout ça,
Exact.
eux, ils ne se testaient pas. Mais les vrais trouillards, eux, non seulement ils se vaccinaient toutes les doses, mais en plus, ils se testaient tout le temps. Hein. Mais il y avait quand même en écrasante majorité des non-vaccinés qui étaient obligés de se tester, qui se testaient régulièrement, ce qui faisait croire à une efficacité vaccinale. Et je reviens à l'étude Pfizer et Moderna.
Oui.
Ils prétendent que leur vaccin marche contre le test. Ça veut dire que leur output, c'est le nombre de testés positifs entre les vaccinés et les non-vaccinés. Mais dans leur méthodologie, jamais ils n'ont promis qu'ils allaient tester autant de fois les vaccinés que les non-vaccinés. C'est-à-dire que Pfizer et Moderna, ils pouvaient très bien, pendant leur étude, tester beaucoup plus souvent les non-vaccinés de façon à trouver plus de tests positifs chez eux. Ce qu'on fait
Incroyable.
derrière les gouvernements. C'est pour ça que je dis, quand on a bac plus 1 en statistique, on lit la méthodologie et on tombe de sa chaise. Quand on ne garantit pas qu'on va tester autant de fois les deux groupes, ben c'est une fraude qui est tellement monumentale que ça saute aux yeux, quoi. C'est pas possible.
Mais j'avais posé la même question à Christine quand elle m'a parlé de ça. Est-ce que les gens qui ont fait ces documents-là ont, ah, puis là, c'est vraiment, je te demande ton opinion, est-ce qu'ils ont fraudé en sachant, ils devaient bien la connaître, la méthodologie, si c'est ça leur travail? Est-ce qu'on peut penser que c'est de l'incompétence ou à ce stade-là, c'est tellement gros qu'on peut assumer que c'est vraiment une fraude?
Bah, en fait, ils sont coutumiers du fait, les laboratoires pharmaceutiques, ils sont coutumiers de trouver des manières de faire croire que leurs produits servent à quelque chose.
Oui.
Et la meilleure manière de prouver que les produits servent à quelque chose, c'est ça, hein, c'est de mettre en place des tests bidons en trouvant des règles stupides, comme le fait, voilà, de compter que les tests positifs et de ne pas tester tout le monde pareil. Il y a aussi, il y a plein de petites ficelles. Si vous avez tout un tas de personnes âgées, obèses et fumeurs, vous les mettez plutôt chez le placebo, parce que là, vous plutôt êtes en mauvaise santé. Qu'est-ce que vous pouvez faire? À chaque fois qu'une personne tombe malade, vous trouvez une bonne excuse pour la virer de l'étude. Enfin, ça, c'est chez les vaccinés. Voilà, comme ça, on n'a pas de malade chez les vaccinés. Il y a tout un tas de petites ficelles comme ça. Et si on regarde l'étude de Pfizer, en fait, ils ont tout utilisé. Parce que, voilà, on a des problèmes de gens qui disparaissent de l'étude. On a le coût des tests. Enfin.
Il y avait aussi le fait que quand on était vacciné, ça prenait 14 jours, je pense, pour qu'on soit considéré vacciné, parce que
Oui.
dans les statistiques, il y a ça aussi qui a fraudé, mais qui a complètement biaisé des chiffres.
Oui, bien sûr, il disait on n'est pas protégé ces premiers jours, donc voilà, on compte pas les prétendus cas de Covid pendant les 7 premiers jours. En fait, c'est le moment où les gens sont malades.
Oui.
Le moment où il y avait des pics de réaction, où les gens avaient été fiévreux, etc., c'était pendant 7 jours. Et là, il disait, bah, c'est pas le vaccin, ça compte pas.
Wow.
Donc, on teste pas les gens pendant 7 jours.
Mais ça a été adressé. Je pense que ça a changé maintenant. Ils ont changé les statistiques de ça. Est-ce que c'est possible?
Non, mais en fait, il faudrait récupérer tous les résultats des détails de Pfizer, etc. Et puis, la plupart des États ont mis ça en place aussi, c'est-à-dire qu'il y avait un décalage entre la date, on va dire, du vaccin et la date des symptômes et la date du décès. Ça a été relevé notamment en Angleterre par Norman Fenton, ce qui explique pourquoi les Anglais ont fait croire au début que le vaccin protégeait de quelque chose, alors qu'en fait, on a plus de décès chez les vaccinés, mais c'était masqué à cause de ce décalage de date. Voilà, donc il y a tous les décès qui avaient lieu dans les 7 jours après la vaccination et considéraient que c'était un décès de non vacciné, alors que c'était bien quelqu'un qui avait reçu sa dose.
C'est exactement le contraire. En fait, ça fait dire le contraire, pas un peu à peu près à côté. C'est vraiment grave. Puis on va rentrer dans toute la question du vaccin parce que tu l'as dit tantôt, c'est ce que tu as particulièrement observé. OK, là, il y a eu beaucoup de théories du complot là-dessus. Les gens disaient tout le monde va mourir, ça va tomber comme des mouches. Donc, d'un côté comme de l'autre, je trouve qu'on est allé beaucoup dans les extrêmes. Là, on est quand même rendu plusieurs années plus tard. J'imagine qu'on a assez de données. Est-ce qu'il y a une surmortalité après le vaccin?
Oui, c'est pas une hécatombe, ça c'est pas vrai. Il faut pas rentrer dans les excès, mais on peut le chiffrer. Déjà, j'ai montré dès le début que pile pendant la période de vaccination, il y a des pics de décès, exactement aux âges et au moment où on vaccine les gens. Donc, ça veut dire qu'il y a bien un effet. Voilà, on trouve une corrélation nickel entre pic de vaccination et pic de décès. Donc, c'est soit dans un sens, soit dans l'autre, hein, quand il y a une corrélation. Donc, soit ça veut dire qu'on vaccine les gens qui viennent juste de décéder. Bon, c'est une théorie. Voilà, l'autre théorie, c'est que bah, on vaccine les gens et puis il y en a qui décèdent à cause de ce qu'on vient de leur faire. Et ça me paraît beaucoup plus probable. Et donc, on a écrit un papier avec Patrick Meyer, qui est un chercheur belge, où il avait fait les mêmes constats que moi, on va dire, de manière un peu plus mélangée, parce que c'était donné d'un site qui s'appelle Euromomo pour European Mortality Monitoring, qui mélange tous les décès de tous les Européens par tranche d'âge. Et puis, il avait mixé ça avec les données de vaccination. Et puis, en utilisant ce qu'on appelle du machine learning ou l'intelligence artificielle, le modèle lui disait, bah, tiens, c'est plus on vaccine les gens, plus on a de morts. Ce qui n'était pas terrible. Donc, il a essayé de publier assez tôt pour dire, attention, on est en train de faire une connerie. Il a été censuré, complotiste, tout ça. Bref,
Bien
ça
sûr.
s'est mal passé, évidemment. Et moi, j'avais fait des travaux qui ressemblaient un peu, mais un peu plus détaillés, parce que moi, j'ai fait pour tous les pays d'Europe séparés, toutes les tranches d'âge, j'ai mis les décès en phase des vaccinations. Et j'ai remarqué qu'en effet, dans la plupart des cas, j'avais bien un pic de décès pile pendant la période de vaccination. Et ça va pas, hein. Donc, j'ai même fait des tests pour montrer que c'était beaucoup trop souvent le cas pour que ce soit dit au hasard. Et donc, ces résultats-là, on a réussi à se les faire publier dans un colloque international de biostatistique avec Patrick. C'était en décembre dernier. Donc,
Wow.
c'est-à-dire qu'on a quand même réussi. Ça a été la bataille, hein. Patrick, il a vraiment dû beaucoup batailler pour réussir à ce qu'on fasse relire. Parce que personne ne voulait nous relire. Et nous, on disait juste, voilà, nos données sont publiques, les programmes sont en ligne. Et moi, tous mes programmes sont toujours en ligne de façon à ce que tout le monde puisse les faire tourner et vérifier mes calculs. Et juste, voilà, trouver quelqu'un de motivé pour se faire relire, ça a été la croix et la bannière. Il a fini par réussir. Et une fois qu'on a été relu, ils ont bien été obligés de dire, bah oui, voilà, c'est la beauté des mathématiques. On a les mêmes chiffres en entrée, on applique la même formule, au bout, on a le même résultat, quoi.
Ben oui.
Donc,
Mais
voilà.
comment expliquer que ça a été le simple fait que, parce que tu dis décembre, ça veut dire décembre 2023,
Ouais.
aussi loin dans le temps que ce soit encore, on doit batailler pour pouvoir, ne serait-ce qu'avoir des gens qui prennent la peine de se mettre l'information devant les yeux Puis de l'assimiler, c'est du gros déni, c'est de la dissonance cognitive. C'est quoi qui se passe, là?
Ben, c'est juste critiquer les laboratoires pharmaceutiques, c'est voir sa carrière détruite, point.
Ouais. Il y a un peu de cela, j'imagine.
C'est pas, si on veut faire carrière, juste se faire un nom, pouvoir travailler, avoir des subventions, il ne faut pas faire ça.
Ouais, c'est clair.
Moi, j'en ai rien à cirer parce que ce n'est pas comme ça que je gagne ma vie, donc j'en ai pas besoin. Mais voilà, des chercheurs comme Patrick qui prennent ce risque, c'est un risque en sachant que derrière, on est bousillé. Donc, il faut vraiment avoir les reins solides ou être inconscient, je ne sais pas, mais savoir que derrière, on va être amené à de très, très grandes difficultés. Donc, il y a quelques chercheurs vieux de la vieille qu'on voit qui, eux, sont au moins de risques, puisque voilà, leur carrière est déjà derrière eux, mais quand même, et il faut voir qu'ils se prennent dans les dents. Mais les jeunes chercheurs, ce n'est pas la peine, quoi. Après, c'est le cas dans tous les domaines de la recherche. Dans tous les domaines de la recherche, on sait que si on ne file pas droit et qu'on ne va pas dans le sens du vent, on ne risque pas de faire une carrière très brillante. Donc, de toute façon, le monde de la recherche de base, il est parfaitement faisandé par des intérêts, des gros intérêts financiers qui se répercutent sur les intérêts particuliers de chacun et tout le monde se tait.
Donc, on recherche, mais en se disant, on va trouver dans cette boîte-là. Il ne faut pas trop penser à l'extérieur de la boîte.
Oui, et on peut même faire diffuser des études, mais qui sont des escroqueries, mais à un point, mais sont incroyables. Avec mon copain Eusèbe Riocher sur ma chaîne que je reçois, de temps en temps, on se prend une étude qui vient de sortir pour dire que les vaccins sont miraculeux, et on la
Ah oui.
décortique, et on se marre. Ils grugent dans les données, ils font des modèles qui n'ont pas de sens. Enfin, vraiment, on rigole, quoi. Et ça passe, c'est diffusé par Science, par Nature, par le BMJ. Et ça passe. Voilà. Si on a, si le résultat
Incroyable.
final, il est bien, bien dans la doxa, on peut être aussi nul qu'on veut.
Ouais.
Comme personne ne comprend rien au stats ni au modèle, de toute façon, voilà, on peut faire
Exact.
n'importe quel truc et ça
Mais c'est
passe.
ça aussi, c'est ça. C'est qu'au début de la pandémie, j'avais eu la pandémie ou peu importe la pandémie, j'avais eu un argument avec un ancien collègue qui, c'était au début, là, c'était genre en mars 2020, puis. Tout le monde paniquait, on avait déclaré ça une pandémie, là, il y avait un vent de panique vraiment très, très fort. Puis il m'avait dit, parce que moi, je relativisais, puis je me disais, attendez, connaissez-vous des gens malades autour de vous? Regardez autour de vous, je ne sais pas, on peut-tu juste prendre le pouls de ce qui se passe? Il me semble qu'il faudrait juste se calmer, prendre un petit peu de recul, on est tous en santé, calmons-nous, puis on n'avait pas le droit de dire de se calmer, c'était la fin du monde. Déjà, à ce moment-là, je dérangeais énormément. Il m'avait répondu, les chiffres ne mentent pas, Hello. Et j'aimerais entendre qu'est-ce que tu as à répondre à ça. Est-ce que les chiffres peuvent mentir?
Les gens qui utilisent les chiffres, eux, peuvent mentir.
Oui, c'est ça.
Un chiffre, c'est un chiffre. La plupart du temps, de ce que je constate en tant que statisticien, le problème vient du fait que les gens utilisent des chiffres sans se poser la moindre question de comment les chiffres ont été recueillis. Alors que là-bas, une statistique, c'est quoi? Donc, c'est un chiffre, une statistique, avec y a un chiffre des dizaines, unités, une virgule. Après des décimales, si on veut, puis un pourcentage. Mais ce chiffre-là, il ne veut rien dire en tant que tel. Déjà, il faut toujours le comparer à quelque chose, hein, pour savoir si c'est plus, moins, ce que ça veut dire. Voilà. Si on dit 42%, c'est bien ou c'est mal 42%, ben on ne sait pas.
On ne sait pas.
Donc, un chiffre hors contexte, ça ne veut rien dire. Et la deuxième chose, c'est de savoir comment il a été construit. Pour ça, les tests, c'est un excellent exemple. Les statistiques de tests sont bonnes. C'est-à-dire que le nombre de tests positifs remontés tous les jours, c'est juste un chiffre avec des tests positifs. Mais c'est quoi un test positif? Comment c'est construit? Donc là, il faut se poser la question. Un test positif, c'est on s'est mis un clic-ouvrir dans le nez et puis ensuite ça ressort blanc ou noir d'un côté ou de l'autre. Ah bon, très bien. Et du coup, est-ce qu'il a un rapport avec la maladie, tout ça? Et là, quand on sort les stats que non, ça veut dire qu'on est en train de compter du vent. Ce qu'on appelle du bruit, c'est-à-dire un espèce de hasard d'un test qui va de temps en temps dire blanc, de temps en temps dire noir, qui n'a aucun rapport avec quoi que ce soit. Et que c'est ça qu'on est en train de dire, oui, regardez, le nombre de cas monte, et donc c'est donc qu'il y a des malades. Mais non, c'est faux. On est juste en train d'avoir des chiffres d'un truc qui n'a absolument aucun sens. Et donc, c'est ça qu'il faut revenir à d'où vient le chiffre. Voilà.
Ouais.
Ce comptage, il est bidon, donc on ne peut rien faire des statistiques finales parce que le comptage en lui-même, il est bidon parce que l'instrument, il est pourri. Enfin, voilà. C'est comme si on avait un thermomètre qui, en plein mois d'hiver au Canada, nous disait 42 degrés Celsius dehors. Bon, bah,
Il va
voilà.
pas me convaincre.
La canicule. Enfin, bref,
Ouais.
il faut se poser la question de juste d'où vient le chiffre, comment il a été construit. Et pour tout ce qui a été appelé, en dehors des tests, hein, pour tout ce qui a été appelé Covid-19, c'est pareil. Comme tous les hôpitaux déclaraient tous les patients comme Covid-19, on voit des statistiques Covid-19 dans les hôpitaux, mais c'est juste le chiffre, il veut dire ce qu'il veut dire. Voilà, 1 000 personnes Covid-19 dans les hôpitaux, ben, c'est juste 1 000 personnes qu'on a mis dans la case Covid-19. Est-ce que cette case Covid-19 a un quelconque rapport avec la réalité, avec des symptômes spécifiques, avec une définition scientifique d'un truc qu'on a appelé Covid-19? C'est non, c'est juste un comptage administratif où à partir d'une certaine date, bah, les patients qui arrivaient, ils étaient mis dans la case Covid-19 et puis c'est tout.
Ouais.
Et dans des pays comme la France et dans beaucoup d'autres pays, les hôpitaux avaient intérêt financièrement à déclarer les gens Covid-19, ce qui fait que des Covid-19, il y en a des tonnes, puis c'est tout. Et ça n'a rien à voir. Donc, c'est
Il y
pas le chiffre
avait une
qui est
carotte
faux.
en fait pour déclarer COVID-19 des gens, les hôpitaux recevaient de l'argent, c'est ça?
Ben, en fait, en France en tout cas, les hôpitaux sont remboursés a posteriori des actes qu'ils ont réalisés.
Ah oui.
Et quand on a un patient qui arrive, qui tousse, qui a de la fièvre, si on le met dans la case grippe, on reçoit moins d'argent que si on le met dans la case Covid-19. Hein. Ou
OK.
bien si on le met dans la case tuberculose, on reçoit moins d'argent que si on le met dans la case Covid-19. Depuis qu'il y a la case Covid-19, en France, il n'y a plus de bronchite, plus de tuberculose,
Voilà.
plus de grippe, plus de BPCO, là, les bronchopneumopathies chroniques, plus d'asthme. Tous ces cas-là qui arrivaient à l'hôpital, ils ont tous fondu comme neige au soleil, comme on dit, et ils
Magnifique.
ont tous été remplacés par le mot Covid-19. Ce qu'on appelle Covid-19, c'est ça. Ce
Oui.
sont les mêmes maladies de d'habitude qui s'appellent plus comme avant et qui s'appellent dorénavant Covid-19. C'est
Donc, ils
pour
ont
ça que j'ai dit.
été codés différemment, comme tu le
Ils ont
disais
été
tantôt.
codés Covid-19. Et il n'y a pas d'autre chose. Il n'y a pas plus de malades. Il n'y a pas du tout une nouvelle maladie qui est arrivée. Il y a les mêmes symptômes que d'habitude, avec les mêmes, voilà, symptômes cliniques, tableaux cliniques que d'habitude, qui se sont appelés Covid-19 à la place de leur ancien nom. Point. Il ne s'est rien passé d'autre.
Bon, voilà qui est clair. On a parlé de surmortalité tantôt. Il y a aussi, je trouve, on ne parle pas beaucoup des gens qui ont été abîmés par cette injection expérimentale-là, parce que c'est plus facile de mesurer un décès là-dessus. Il n'y a pas d'ambiguïté. Mais après, tout le monde que je connais qui a eu des problèmes suite à l'injection, que ce soit de la fibromyalgie, que ce soit du zona, que ce soit, bon, myocardite. Ouais, mais c'est peut-être pas vraiment ça parce que j'ai eu mes symptômes comme 2 mois après. Fait que ça pourrait être autre chose. Puis là, bon, on tombe là-dedans. Donc, j'imagine que de faire vraiment les statistiques alors que la plupart n'ont pas été. Il n'y a pas de lien qui est fait. Ils ne sont pas mis dans la case effet indésirable de l'injection. Comment est-ce que tu es capable de prendre la mesure? Est-ce qu'il y a eu beaucoup de blessés de cette injection-là?
Bah déjà, moi je vois vraiment une trace sur les décès, hein. À partir du moment où on vaccine, pile pendant le moment où on vaccine, et puis même après. C'est-à-dire selon les modèles qu'on fait, on voit une surmortalité qui démarre à partir de 2021, de l'été 2021 notamment chez les jeunes, et qui se poursuit après. Donc voilà, ça a l'air de ne pas déranger les autorités, mais on voit vraiment statistiquement. Alors après, on peut critiquer les modèles, mais quand même, on a un signal qui est beaucoup plus fort que le prétendu signal Covid, et il se voit. Déjà, même juste le fait qu'on ait des morts, vraiment un pic, même si ce n'est pas des millions de personnes qui meurent, mais c'est quelques centaines chez les jeunes en France, mais ça se voit quand même statistiquement, un mort, c'est l'état le plus grave d'une blessure. Donc ça veut dire que pour chaque mort qu'il y a, il y a des centaines, des milliers de blessés graves et des dizaines de milliers, centaines de milliers de blessés légers. Enfin voilà, il faut vraiment voir le mort comme un révélateur de ce qu'il y a de plus grave.
Oui.
Et que c'est voilà, ça fait beaucoup. Il faut quand même vraiment qu'un produit soit vraiment nocif pour qu'il réussisse à tuer un jeune. Donc ça veut dire que s'il y a un mort, il y a tout un tas qui ne sont pas sentis bien. Hein. Donc il faut vraiment
Puis
le
on
prendre
a
comme.
des statistiques qui disent que des jeunes sont morts de cette injection-là.
Ben,
On a
il y a
des liens.
des déclarations de pharmacovigilance, c'est-à-dire des médecins professionnels de santé qui voient un jeune qui était en parfaite santé et qui meurt juste après, couvert de thrombose ou bien avec un arrêt cardiaque et qui se dit c'est pas normal et qui fait une déclaration de pharmacovigilance, ça y en a. Les autorités elles disent oh bah vous pouvez pas prouver la causalité, attention, hein,
C'est ça.
ce qui est vrai scientifiquement. Vous avez beau être en parfaite santé, on vous pique 2 jours après, vous crevez, vous êtes, voilà, vous avez toutes les veines qui ont saigné dans votre corps ou bien votre cœur s'est arrêté. On peut toujours dire, ben, on ne sait pas pourquoi, hein, il n'y a peut-être pas de lien avec la vaccination, et c'est ce que font les autorités pour se défendre. En revanche, statistiquement, les professionnels du médicament reconnaissent que pour chaque cas qui a été décrit en pharmacovigilance, puisqu'on sait que personne ne fait l'effort de faire une déclaration de pharmacovigilance, chaque cas représente en fait à minima 10 personnes à qui il est vraiment arrivé quelque chose. C'est-à-dire que pour l'industriel du médicament, la pharmacovigilance ne représente que 10% des effets indésirables réels de ses propres produits. Et ça, on a des traces écrites où ils l'admettent. Donc pour chaque décès où une personne se plaint qu'il y a eu un décès, implicitement, l'industrie du médicament sait qu'il y en a eu dans la population à peu près 10. Pour les professionnels de santé qui ne sont pas payés par l'industrie du médicament, ils disent qu'il faut plutôt faire x20 ou faire x100 même. Mais même juste si on fait x10, ça veut dire que si vous connaissez quelqu'un de votre famille qui est un jeune, voilà, décédé juste après la vaccination, l'industrie va dire, ah non, lui, on peut pas, vous ne pouvez pas dire que c'est nous, on n'en sait rien. En revanche, lui, il est mort, ça veut dire qu'en tout, il y en a bien 10 qui sont morts. Hein. Mais pour lui, on ne va pas reconnaître. C'est, vous savez, c'est ce double discours-là, c'est un discours qui est statistique, mais tout en se dédouanant de la responsabilité pour les cas particuliers. Bon, en plus, il y a tous les médecins qui ont vacciné qui ne veulent surtout pas dire qu'évidemment, ils ont tué des gens, hein, ou même qu'ils les ont rendus malades. Donc, tous, ils vont refuser de faire des déclarations de pharmacovigilance. En plus, c'est long et pénible. Donc, il faut vraiment se battre, hein, pour faire une déclaration, tout en sachant que de toute façon, la loi protège à fond, les fabricants, des médicaments en imposant, à la personne qui se plaint d'effets indésirables, d'apporter la preuve que c'est le médicament. Alors la loi est un peu en train d'évoluer là-dessus, mais c'est extrêmement difficile pour une personne qui souffre d'un effet indésirable d'un médicament, vaccin ou pas, de réussir à faire reconnaître son état, parce que la loi n'est pas avec lui. Et même s'il est fait reconnaître, il faut qu'il y ait un expert qui mette son nom pour dire oui, je suis sûr que c'est ça. Bon, mais en plus, alors qu'il y a toujours un doute, mais bref. Et en plus, à la fin, les compensations financières sont parfaitement ridicules. On voit des sommes genre 3 000 balles pour une sclérose en plaques, enfin, le truc qui va t'handicaper à vie et qui va te faire que tu vas décéder de manière précoce. Enfin, il faut comprendre que, il n'y a quasiment aucun risque pour l'industrie du médicament. À produire et à distribuer des trucs qui sont parfaitement délétères, déjà, il va y avoir toutes les autorités, tous les médecins vont tous nier de ce qui s'est passé. La loi n'est pas en faveur des plaignants, hein, des victimes de ça, et même dans les rares cas où on tient 10 ans de procès pour finir en cassation et finir par obtenir gain de cause, on obtient mais des clopinettes
C'est ça.
qui sont risibles, quoi. Voilà, 3 000 balles pour quelqu'un qui a vu sa vie détruite, déjà c'est parfaitement ridicule, et 3 000 balles pour l'industrie du médicament qui dépense rien que pour des petits, genre GlaxoSmithKline. Si vous allez sur Wikipédia, vous pouvez voir qu'ils dépensent 1 milliard en lobbying chaque année aux États-Unis et autant en Europe. Donc voilà, 3 000 balles de
Mais
plus.
en fait, c'est un double standard, comme tu disais tantôt, parce que ça montre à quel point ils n'ont pas vraiment, quand on observe leur modus operandi, ils ne semblent pas avoir beaucoup de respect de la vie humaine. Mais après, là, soudainement, tout le monde disait non, c'est des compagnies altruistes, ils sont là pour la santé des gens, ils veulent notre bien. Puis vraiment, je me dis, mais vous voyez pas que c'est le seul intérêt, c'est l'argent. Il faut arrêter de se leurrer. Il n'y a pas d'autre intérêt. Ils en ont un peu rien à foutre. En fait, ils ne veulent pas qu'on aille bien. Ce n'est pas leur intérêt qu'on soit en santé. C'est pas rentable.
Ah ben non, oui, c'est la blague du premier jour d'arrivée en médecine où le professeur qui écrit sur le tableau, voilà, tout patient guéri est un client perdu.
Ben c'est ça, exact.
Bref, non, cette industrie ne vit que par le fait que les gens subissent des traitements à vie le plus souvent possible et dépensent du pognon pour leur acheter des trucs. Enfin, les actionnaires majoritaires de l'industrie pharmaceutique, c'est les fonds de pension américains qui sont aussi à la tête de toutes les plus grandes, on va dire, consortiums, les moins philanthropes de la planète, et c'est aussi qui détiennent les industries pharmaceutiques. Tout ça, c'est les mêmes, hein. Voilà. Et
Exactement.
encore une fois, quand n'importe laquelle de ces industries dépense plus d'1 milliard de dollars par an en lobbying, Ça donne une idée de, voilà, du besoin qu'ils ont de faire croire qu'ils sont utiles par rapport à la réalité, quoi.
Exactement, c'est très bien résumé. On a parlé peu aujourd'hui de des femmes enceintes, des enfants, puis toute la question de la natalité. Est-ce que, bon, on s'attendait aussi à avoir énormément de fausses couches, qu'on a aussi eu peur pour les organes reproductifs des femmes comme des hommes. On sait que tous tes droits d'auteur de ton livre, tu les donnes à Où est mon cycle, qui est seulement en France, je crois, l'organisme. C'est toutes les femmes qui ont perdu ou en tout cas qui ont eu des dérèglements menstruels ou hormonaux suite à l'injection. Donc, et moi, j'en connais plein autour de moi qui ont eu ça. C'est pas quelque chose de rarissime. Est-ce qu'on a maintenant, est-ce qu'on peut voir statistiquement l'impact que cette injection-là a eu sur la natalité?
Oui, alors on voit bien, j'en ai déjà parlé un tout petit peu dans le livre de poche que j'ai réécrit, et là je vais en parler un peu plus. Je suis en train d'essayer de mettre à jour les données pour peut-être refaire un petit écrit spécifiquement sur la question des effets indésirables. Mais oui, on a vu une chute de la natalité dans tous les pays qui ont massivement vacciné, et chute qui ne s'explique pas par la démographie, hein. On a vraiment des chutes brutales et continues de la natalité. Pile après la période de vaccination, et pour tout un tas de pays, notamment des pays qui avaient une natalité extrêmement régulière, donc on peut suivre dans le temps depuis très longtemps, comme le Danemark, on prend la date de la vaccination des jeunes femmes, on regarde 9 mois plus tard, et pile, on a un effondrement exactement à ce moment-là. Donc ça aussi, c'est une trace statistique qui est assez nette. Il y en a eu d'autres, notamment en France, la vaccination des femmes enceintes a été autorisée et promue à partir de mai 2021. Et il se trouve que c'est en juin 2021 qu'on a battu le record toute catégorie du nombre de mortalité de nourrissons décédés précocement, c'est-à-dire en état de mortalité néonatale précoce, c'est-à-dire décédés entre 0 et 6 jours de vie. Et donc ça, c'est révélateur bien souvent des fausses couches. Bon, c'est-à-dire, enfin, pas tout à fait des fausses couches, parce que ça veut dire que le bébé est suffisamment avancé pour naître vivant. Donc, je ne sais plus combien de semaines il faut d'aménorrhée, il faut qu'au moins qu'il fasse 500 grammes, etc. Il y a un certain nombre de règles, ça dépend des pays. Mais quand il décède dans les 6 premiers jours, le plus souvent, c'est qu'il est né trop tôt, hein. Et donc là, on a vraiment une trace statistique hyper nette et hyper forte. De pile au moment où on vaccine les femmes enceintes, bah, c'est pile au moment où on va avoir tout un tas de décès en mortalité néonatale précoce. Et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a vacciné des femmes enceintes qui étaient à un état de grossesse où certes le bébé était en tout début de viabilité, mais en fait c'était trop tôt. Et elles ont fait un accouchement direct post-vaccination, et ils ont perdu le bébé. Et donc ça, on
C'est
a une trace
horrible.
statistique qui est nette. Et on arrive à faire témoigner des femmes qui ont perdu leurs règles. Autour de moi, dans mes connaissances proches, c'est quasi 100%, hein, des femmes qui ont perdu leurs règles après la vaccination. Après, pour beaucoup, c'est revenu, mais il y en a, ça a mis plusieurs années à revenir. Et avec tous les médecins, on y est. Il n'y en a aucune d'entre elles qui a fait une déclaration alors qu'elle savait mon travail. Et tous leurs médecins ont tous nié que c'était la vaccination, alors que c'est juste après. Et c'était tout ensemble, enfin, c'est fou. Bref, mais ça, on arrive à faire témoigner quelques femmes là-dessus, à écrire des SERFA. En revanche, pour la perte des bébés, c'est tellement dur à vivre qu'on a vraiment du mal à réussir à trouver une femme qui va accepter de faire une déclaration après, quoi.
Parce
Et
que
puis,
le processus est à ce point fastidieux.
et ce processus est à ce point fastidieux, la totalité du corps médical va nier la relation de cause à effet, en disant non, c'est pas nous, c'est pas ça. Voilà, je sais pas, vous avez mangé une courgette pas fraîche, des cacahuètes. Pas ce qu'ils trouvent. Vous avez secoué les draps du lit trop fort, vous avez fait vos chaussures, enfin bref, ils vont trouver une excuse à la con. Mais donc ils vont tous nier, et donc ça veut dire que les femmes qui se battent, elles sont seules contre tous. Seules contre tous, et en plus, bien souvent, enfin, le corps médical, il a une relation de bienveillance avec la personne, ce qui fait que les gens font confiance. Et donc ils vont faire confiance à la fois quand c'est positif, mais même quand c'est négatif, on leur dit mais non, c'est pas nous, machin, et ils vont se dire, bah non, d'accord, je ne vais pas quand même pas leur faire ça, les accuser. Et donc ouais, c'est une relation, on va dire, de proximité qui se met en place, et les gens ne vont pas se retourner contre le corps médical qui est pourtant responsable de leur état.
Mais en fait, aussi, comme tu viens de le dire, perdre un bébé, c'est déjà un drame. Donc, j'ai l'impression qu'ils ont d'autres chats à fouetter. Puis, c'est. Mais tu te dis, bon, je survive à cette épreuve-là, puis je ne vais pas commencer à chercher un responsable, il faut passer à autre chose. Donc,
C'est 10 ans de
mais.
procédure, hein. C'est 10 ans de procédure où vous battez
Oh,
contre
ouais,
une
OK.
terre entière, et au final, pour rien gagner, mis à part le
C'est
fait de
ça.
se dire qu'on a gagné.
C'est tout.
Voilà.
Est-ce que tu penses qu'il va y avoir justice? Parce qu'on parle de tout ça, on t'a les chiffres devant les yeux, tu vois ce qui s'est passé et pourtant, ça ne change pas. Donc, qu'est-ce que ça va prendre?
Ben, regarde la vaccination H1N1. H1N1 était aussi une escroquerie hein, complète en 2009. Il n'y a pas eu la moindre pandémie non plus. Il y a eu une tentative de vaccination de la Terre entière aussi à ce moment-là. Selon les pays, ça a plus ou moins marché. Nous, en France, ça a peu marché, mais un petit peu quand même. Ça a marché à fond en Suède, en Norvège et en Finlande, et où ils ont vacciné même les gosses, tout ça. Et il y a tout un tas de gens qui ont eu leur vie détruite. Déjà, il y a des morts, mais voilà, les morts ne parlent plus. Et puis, c'est plus facile de se défendre. En revanche, il y a eu tout un tas de cas de narcolepsie. Donc, narcolepsie, c'est quand on a le cerveau grillé et qu'on s'endort après, qu'on ne peut plus se réveiller, enfin, on s'endort tout le temps. Et voilà. Et en fait, la narcolepsie, c'est tellement rare, c'est probablement toujours dû à un empoisonnement, mais bon, c'est tellement rare que c'est, je ne sais plus, une personne par 7 millions, un truc comme ça. Et là, quand vous avez sur un pays comme la Suède, je ne sais pas, des dizaines ou des centaines de gamins qui tout d'un coup deviennent narcoleptiques du jour au lendemain, en fait, ça donne une trace statistique énormissime. Et là, ils n'ont pas pu se défendre, le laboratoire pharmaceutique. Il y avait trop d'indices concordants, inexpliqués, tous en même temps. Et donc, les narcoleptiques ont réussi à se faire reconnaître que c'était bien le vaccin pour obtenir des dédommagements. En France, c'est en 2021 qu'on a reconnu leur état, sachant que la vaccination, c'est 2009, enfin, c'est-à-dire il faut plus de 10 ans de procédure, et encore, ils ne sont même pas remboursés pour la plupart, et il n'y a que la centaine qui a tenu 10 ans de procédure pour aller jusqu'en cassation, enfin bref, voilà, et la terre entière était contre eux, évidemment, les médias, etc. Il n'y a que ceux qui sont dans les bouts qui, peut-être, auront une petite réparation, sachant qu'ils ont leur vie détruite. Donc, il n'y a pas d'autre choix, de toute façon, d'aller en justice pour essayer d'obtenir réparation que de se battre pendant les 10 ans, tout en sachant que la seule ce qu'on peut vraiment, ce dont on doit chercher à obtenir à ces moments-là, c'est une reconnaissance du public, c'est-à-dire que les gens finissent par reconnaître que oui, l'industrie pharmaceutique passe son temps à faire du mal aux gens pour s'enrichir, point barre, et que si elle fait du bien aux gens de temps en temps, elle ne fait pas exprès, c'est pas ça son objectif initial. Son objectif, c'est vraiment de gagner du fric, point. Et les malheurs des gens, elles s'en séparent très bien. Et ils ont une telle puissance financière que de toute façon, voilà, encore une fois, les lois sont en leur faveur, les jugements aussi, les politiques, enfin bref, on se bat quand même contre un Léviathan, hein. Il faut en avoir conscience.
Oui, c'est ça. En fait, on parle de H1N1. Si j'en parle avec le citoyen lambda, il n'est pas au courant que le vaccin a créé des dommages, que c'était une fraude. Ça non plus, ça n'a pas filtré vraiment dans la sphère publique. Donc, c'est un peu ça ma peur, c'est que on n'arrive pas à faire une prise de conscience collective qui va faire qu'on sera plus vigilant la prochaine fois, qu'ils vont essayer de nous renvoyer encore parce qu'on peut s'attendre à ce qu'ils essaient de faire un autre théâtre encore d'une autre épidémie où c'est prévisible.
C'est ce qu'ils sont en train d'essayer de faire avec le monkeypox en ce moment, qui est la même escroquerie. Alors, c'est un peu plus dur de faire peur aux gens parce qu'il faut quand même prétendre voir des boutons. Et du coup, il y a moins de gens. Alors que bon, le nez qui coule, à peu près, ça arrive à plusieurs fois dans l'année à quasiment tout le monde. Oui. Donc, c'est assez facile de faire peur aux gens avec ça. Voir des boutons visibles, bon, alors c'est l'été, moi j'en ai sur les jambes parce qu'il y a des moustiques.
Oui.
Voilà. Alors, on va m'expliquer que c'est du monkeypox transmis par le moustique. Alors, c'est intéressant. Je fais un bouton à chaque fois qu'un moustique m'a piqué. C'est peut-être le monkeypox. Enfin, bref. Mais ça a moins de chances de prendre ce genre de choses parce que les symptômes sont un peu plus durs à faire. Bon, sauf s'ils arrivent à faire le coup du monkeypox asymptomatique, ils vont peut-être essayer.
Probablement.
Après, on a bien vu pendant cette période, il y a quand même de plus en plus de gens qui se réveillent à ce qui se passe. Même les discussions qu'on a eues sur la fraude totale, les tests entièrement bidons, même la théorie de la propagation qu'en fait ne marche pas du tout statistiquement, c'est des questions qu'on commence à pouvoir se poser et à remettre en question vraiment dans la population, alors qu'il y a 5-10 ans, ce n'était pas possible. Même moi, je n'aurais pas été sensible à ces questions-là, j'étais trop loin. Ouais. Là, ils sont tellement allés loin dans l'arnaque Covid-19 que les gens sont prêts à se poser des questions pour se dire « mais jusqu'où va la fraude et à quel point tout est faux ?» Et donc, en fait, plus ils vont loin dans la pression sur les gens, dans les dégâts qu'ils vont faire avec des vaccins ou d'autres, ou même les confinements, tout ça, plus les gens a posteriori vont se poser des questions et plus on est sur une crête, quoi. C'est-à-dire, voilà, il va falloir qu'ils y aillent fort pour essayer de faire basculer les gens dans la psychose, mais autant il y a que 5, il y a voilà, peut-être 5% de gens qui ont vraiment résisté le coup d'avant. Là, le coup d'après, il y aura plus de monde à résister. Donc, ça veut dire que pour imposer des choses, il faudra qu'ils y aillent beaucoup plus fort. Donc voilà, on est sur une crête à chaque fois où il y a l'appât du gain, du pouvoir, etc., qui est en jeu, mais il y a aussi de beaucoup plus de personnes maintenant qui ont compris l'arnaque et qui ne vont pas se laisser avoir si facilement une deuxième fois. Voilà,
Oui,
donc
c'est
c'est aussi à ça que servent les procès, se défendre, etc. Tout moyen de communication, tout ce qu'on réussit à pousser pour juste faire comprendre aux gens à quel point tout ça c'est faux, à quel point il y a des gens qui veulent s'enrichir et qui ne veulent pas du bien, à chaque fois c'est une victoire, ça nous permet d'être plus nombreux le coup d'après.
Oui, puis comme tu viens de dire, ils n'auront pas le choix d'y aller encore plus fort la prochaine fois. Puis j'ai l'impression que ça a été un peu ça aussi qui a été, qui a servi à prendre conscience à quel point ils ne nous veulent pas du bien parce que c'était tellement rendu gros. Comme on parle toujours ici au Québec, on était rendu qu'on donnait des hot dogs pour aller se faire vacciner. Ben, il y en a beaucoup qui ont dit, attends, mais qu'est-ce qui se passe? Comment on a pu en arriver là? Et là, ça s'est mis à faire des gens qui étaient à fond dans le narratif, qui sont mis à se questionner parce que c'était trop gros. Donc, je pense que ça fait partie, ils nous rendent service un peu, ils nous aident à prendre conscience qu'ils sont pas là pour notre bien, puis ils se tirent dans le pied. Avant qu'on termine, on n'a pas parlé des cancers fulgurants et des myocardites. En fait, j'aimerais ça savoir si, parce que moi, j'observe autour de moi énormément de gens qui meurent de crise cardiaque ou sans forcément mourir, mais qui ont des arrêts cardiaques et là, qui se font réanimer, qui reviennent, des gens de 40 ans, 45 ans, qui n'avaient pas de passé. Est-ce que ça se mesure et, ouais, c'est ça. Est-ce qu'on peut dire qu'ils commencent à avoir des liens? On dit qu'un effet indésirable, c'est le cancer fulgurant. Est-ce qu'il y a des corrélations ou causalités?
C'est très difficile parce que, comme je disais, tout ça, c'est une affaire de codification.
Oui.
Il faudrait que les gens soient correctement codifiés, notamment à l'hôpital, et qu'on voit vraiment des choses solides statistiquement. C'est très, très difficile parce qu'en plus, comme c'est l'OMS qui tient la codification, l'OMS s'amuse très régulièrement à changer la codification, ce qui fait qu'on ne voit plus rien. Et ce n'est pas anecdotique ce que je viens de dire. Hein. L'OMS vient juste de sortir la CIM 11, c'est-à-dire la 11e version de sa codification des maladies, alors qu'avant, on était à la 10, et il y a tout un tas de chamboulements à l'intérieur. Voilà,
Quand tu
donc le
dis on
fait
voit
que.
plus rien, tu veux dire que statistiquement on voit plus rien?
Je vais prendre un exemple concret qui est assez parlant. Par exemple, après, il y a vraiment des questionnements sur l'autisme à post-vaccination.
Oui.
Voilà. Peut-être des adjuvants aluminiques, ce genre de choses. Moi, je ne suis pas arrêté sur le sujet. Mais dans la codification internationale des maladies, il y avait une maladie dans la partie psychologique qui concerne l'autisme. Il y a différentes branches et sous-branches. Et il y avait une petite branche où c'était écrit que voilà, un gamin avec un comportement parfaitement normal jusqu'à une certaine date et qui devient autiste à partir d'une date très précise. Donc, parce qu'il y a d'autres cas autrement où il y a un autisme qui démarre dès la naissance ou des difficultés de langage, etc., pour suivre les états de santé des enfants. Mais cette case-là, elle est extrêmement particulière parce qu'elle dénote un autisme brutal qui démarre à une date précise. Et ça, c'est vraiment un signal extrêmement fort de possible empoisonnement. Et donc ça, c'était un signal très fort pour se plaindre contre la vaccination et accuser, enfin voilà, une vaccination qui vient d'apparaître de possiblement avoir rendu autiste un gamin. Eh bien, cette case-là, ils viennent de le faire disparaître. Voilà. Ce qui fait qu'on n'aura
Disparaître.
plus, elle est plus, cette case-là n'existe plus. C'est-à-dire que quand on est médecin et qu'on veut enregistrer le gamin qui est autiste, il faut le mettre dans une autre case parce que celle-là n'existe plus.
Donc, c'est impossible de retracer si un enfant qui a reçu un vaccin 2 semaines plus tard s'est mis à montrer des signes. Ça ne peut pas être mis dans aucune case.
Ben, ça ne sera pas dans la case. Les parents peuvent le savoir ou les médecins peuvent le savoir en suivant le gamin, mais on ne peut faire aucune statistique dessus, puisque la
Mais
statistique disparaît,
ce que
vu qu'on
tu
n'aura pas le
dis,
chiffre.
c'est intéressant quand même, ça veut dire que ça existait avant. Donc, on a déjà des statistiques qui peuvent nous démontrer que l'autisme peut être causé par un vaccin.
Oui, on peut étudier ces à condition qu'elle soit bien remplie, mais
Oui.
ce qui est intéressant, c'est juste la capacité de l'OMS à faire disparaître des traces.
Oui, c'est
Voilà.
troublant, oui.
Là, il y avait une trace statistique gênante à cause d'un codage. On peut l'enlever et comme
Bye
ça, il n'y
bye.
aura plus de problème. Voilà. Et pour toutes les. Le problème, que ce soit la même instance qui décide de tout, qui fasse évoluer les codes et qui soit celle qui soit en plus en cheville avec le laboratoire pharmaceutique, c'est-à-dire qu'elle est capable de donner on va dire, des noms à toutes les maladies. Et comme j'expliquais, qui fait rentrer tout le monde dans les cases qui les arrangent. Voilà, et comme ça, on va pouvoir vendre des médicaments pour telle ou telle maladie ou des vaccins pour telle ou telle maladie, puisqu'on a choisi ces noms de maladies-là. Et qui vont arranger tout le monde. Mais en plus, quand il y a des cases qui les embêtent un petit peu, ils sont capables de les faire disparaître.
Incroyable. En tout cas, une fois encore, ça montre que l'OMS n'est pas forcément là ou du moins, il y a des influences négatives au sein de l'OMS?
Ben, à partir du moment où, de toute façon, c'est une instance qui est, on va dire, privée, puisque la majorité des fonds viennent d'une seule personne et ou d'une seule personne qui détient différentes fondations, voilà, c'est quelqu'un qui est à, c'est une organisation qui est à la solde d'intérêts privés, point.
Oui, ben oui, voilà, c'est aussi simple que ça. Est-ce qu'il y a quelque chose, depuis qu'on s'est parlé, dans, mettons, dans la dernière année, en 2024, qui est sorti, tu considères qu'il serait important qu'on en parle, qui vient solidifier quelque chose? Est-ce qu'il y a des documents qui ne sont pas encore sortis, qui devraient être révélés au public?
En Allemagne, il y a ce qu'on appelle les RKI Files, hein, le Rupert Koch, c'est l'Institut Koch, c'est en France, on a l'Institut Pasteur, l'Institut Koch, Koch plutôt, en Allemagne, c'est l'équivalent. Et donc, il y a un gros scandale du fait de documents officiels qui ont été publiés et qui montrent, en gros, pour simplifier, que toutes les communications qu'il y a eu pendant la crise entre le grand institut allemand et les politiques, et on voit bien que ce sont les politiques qui ont dit à l'institut quel résultat sortir. Voilà, il y avait des impératifs politiques et du coup, il fallait sortir tel résultat. Et donc ça fait un scandale en Allemagne. Voilà, il y a quelques, en fait, il y a des petits scandales comme ça. Il y en a un peu partout qui permettent aux gens qui s'y intéressent. Ben, tout simplement, ça nous conforte dans ce qu'on a montré, c'est-à-dire que c'était une escroquerie monumentale qui était avant tout, on va dire, économique, politique. Ça n'a rien à voir avec un problème de santé où il y aurait eu des choses qui auraient été faites pour notre bien. Mais voilà, tout, on a tout un tas d'indices qui arrivent au fur et à mesure. Il y en aura certainement d'autres.
Oui. Mais ça, voilà. Ça reste, comme tu dis, en Allemagne, ça reste juste en Allemagne. La presse internationale ne s'empare pas de ces nouvelles-là, alors qu'à l'inverse, on en aurait fait tout un cas si ça avait été comme en Italie, les premiers cas de COVID où on ne parlait que de ça. Donc, c'est ce qui me dérange, c'est à quel point ça filtre pas dans la... Même aux États-Unis, il y a de plus en plus, bon, la Chambre des députés qui reçoit des hauts fonctionnaires de la FDA qui viennent témoigner comme quoi ils ont eu des pressions ou ils ont pas respecté les règles pour sortir ce vaccin-là. Mais les médias n'en parlent pas. C'est ce qui me dérange. Puis bon, c'est mon rôle aussi, c'est pour ça que j'en parle. Mais on reste très marginalisé. Puis j'ose croire, en tout cas, qu'on va finir par... avoir une justice qui va être faite ou les pendules qui seront mis à l'heure parce que rendu en 2024, tu l'as dit, oui, ça prend du temps, mais maintenant, il y a assez d'informations pour que, je pense que les gens qui continuent de penser qu'il y a une pandémie puis qu'on continue d'aller chercher leur dose, je connais des gens qui sont rendus à 9 doses, ben il faut arrêter, là, au moins arrêter d'aller chercher vos doses. C'est dangereux.
Après, chacun fait ce qu'il veut. Hein. Moi, j'ai rencontré en conférence des personnes qui m'ont dit « Moi, j'ai un proche qui est rendu qui a fait 7 doses et qui a eu 9 fois le Covid. » faut lui dire, hein, c'est vachement bien. Le prochain coup, il sera hyper protégé.
Oui, c'est ça. La prochaine sera la bonne.
Oui, c'est ça. Non, mais tu sais, en France, il y a absolument… Du côté des médias mainstream, il n'y a absolument aucun progrès. En revanche, il y a beaucoup de progrès du côté de la population. Hein. Comme je disais, il y a quand même une grosse partie, on va dire, enfin, même s'il n'y a pas une grosse partie des gens qui a compris, mais la part des gens qui a compris, elle a quand même énormément grossi, par rapport à ce que c'était initialement en 2020, donc ce qui rend plus difficile le coup d'après. Oui. Est-ce que la justice donnera quelque chose? De toute façon, si on ne fait rien, il ne se passera rien. Donc, ça vaut quand même le coup de se battre, tout en sachant que ce qu'il faut viser, c'est à force d'avancer un éveil du public pour finir par faire tomber ces gens-là, mais ça ne passera que par un éveil du public. Il ne faut pas espérer gagner pour soi. On peut avoir la reconnaissance d'avoir gagné, mais il ne faut pas espérer devenir regagner des sous ou compenser quoi que ce soit. Ce n'est pas ça qu'il faut espérer. Il faut faire ça dans une optique de changer les choses à long terme. Et ne rien faire, c'est en effet, de toute façon, être complice. D'une certaine manière, j'ai envie de dire. Même si ça peut être extrêmement difficile pour les gens, on ne peut pas jeter la pierre à des gens qui sont effondrés de ce qui leur est arrivé ou que c'est juste de soigner un état qui est extrêmement difficile. Mais si on peut, en tout cas, si on a l'occasion et si on a les nerfs et la possibilité, il faut mieux faire quelque chose plutôt que de laisser passer. Même si, si gros changement doit y avoir, ça ne se fera que le jour où il y aura un changement politique. En France, ce sont exactement les mêmes qui ont été reconduits au pouvoir, avec un espèce de faux semblant d'opposition qui n'existe pas, qui fait semblant d'exister, mais tout en laissant la majorité faire tout ce qu'elle veut, et en la reconduisant d'ailleurs, en étant copain-copain avec, toutes les oppositions sont copain-copain avec von der Leyen et le
Oui.
parti von der Leyen au niveau européen. Donc en fait, tant qu'on n'a pas de changement politique majeur et qu'on n'a qu'une majorité confortée et des oppositions fantoches, il ne va pas se passer grand-chose. Voilà.
Non.
Donc il faut pour qu'il se passe quelque chose, il faut quand même un changement politique majeur. Je ne sais pas ce qui va se passer aux États-Unis. Peut-être que rebrasser un peu les cartes, ça pourrait ouvrir un peu d'air à des nouvelles possibilités et puis des nouvelles accusations, même si je ne pense pas que les nouveaux qui arriveraient seront des saints, quels qu'ils soient, mais peut-être qu'ils pourraient surfer sur la vague d'écraser la tête de leur prédécesseur en leur faisant porter chapeau sur ce qui s'est passé. Voilà. Ça pourrait être une manière qu'on ait un peu plus de visibilité, que ça ouvre un peu des portes d'explication juste sur le fait que quand des nouveaux arrivent, comme ça, ils écrasent les anciens.
Ouais, en tout cas, dans le cas de Kamala Harris, elle est déjà au pouvoir. Donc, si elle aurait pu faire quelque chose, elle ne l'a pas fait. Mais bon, il y a beaucoup de gens qui mettent beaucoup d'espoir dans Trump. Moi, j'aurais bien aimé Bobby Kennedy Jr., mais il est pas très populaire. Mais on verra. En tout cas, une chose est sûre, c'est qu'il va se passer beaucoup de choses. Puis ça brasse partout à l'international. Donc, on assiste à une ère assez particulière et plutôt intéressante. Puis on est mieux de se positionner, comme tu le disais. Moi, je poursuis YouTube, Google pour atteindre à ma liberté d'expression. Et ça va prendre 10 ans, je le sais, je ne le fais pas pour l'argent. C'est un recours collectif. Je pense qu'en France, ça n'existe pas les recours collectifs, mais ici, au Canada, ça existe. Et je le fais vraiment juste pour le principe, puis parce que comme toi, je suis maman, puis je me dis, ben, t'es pas maman, t'es papa, mais on a des enfants, puis je me bats pour le monde de mes enfants. C'est tout simplement ça, ma motivation. Alors, d'ailleurs, merci de faire ce que tu fais, Pierre. Je redis le nom de ton livre. Ça s'appelle COVID-19, ce que révèlent les chiffres officiels chez l'artilleur, et c'est disponible au Québec. Donc, pour ceux qui veulent se le procurer, j'ai vu qu'il était sur Archambault, puis il doit être chez Renaud-Bray aussi.
Il est
Mais merci
disponible en
pour.
anglais aussi, hein, maintenant.
Comment?
Il est disponible en anglais et voilà,
Oh!
au Canada, ça peut être intéressant aussi. Voilà. Donc,
Bravo!
sur des grandes plateformes de distribution, vous pouvez le trouver en anglais. Je ne sais plus quel est son titre exact.
Ouais.
Enfin,
C'est
voilà,
toi
tout
qui
cas,
l'as traduit ou
non,
t'as
ce n'est
eu?
pas, moi.
Ok. C'est du travail.
J'ai eu deux traducteurs professionnels qui ont travaillé sur le bouquin.
Super.
Voilà. Donc,
Ben,
c'est.
merveilleux. Ben, en tout cas, merci. Puis à force d'avoir ce genre d'ouvrage-là qui sort, ben, espérons, on changera au compte-goutte les choses. Merci, Pierre, pour ton temps. Puis à la prochaine.